Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de C'est quoi ta spécialité? Cette semaine, on a reçu Dr Zaguilla, qui est un ophtalmologiste au CHUM et à l'Université McGill.
Oui, elle nous a vraiment donné un bon portrait, c'était quoi l'ophtalmologie. Elle a détruit certaines idées préconçues que j'avais un peu sur l'ophtalmologie par rapport à la pratique, comment c'est diversifié, aussi comment tu peux aller te respécialiser dans tellement de domaines différents. Donc, pour vrai, si c'est un domaine qui vous pique juste un peu votre curiosité ou si ça vous tente vraiment d'y aller, je vous suggère fortement d'aller l'écouter.
Bon épisode!
Donc, avant de commencer l'épisode, j'aimerais ça remercier notre commanditaire officiel, Archer. Archer, c'est une firme de finance qui se démarque vraiment par sa simplicité, sa rapidité d'exécution et son expertise.
Oui, puis c'est une firme qui est spécialisée en médecins. Donc, n'hésitez pas à les contacter là, si vous avez des questions par rapport aux bourses, à la marge de crédit, à des assurances invalidité ou à des options de placement.
Ouais, puis en plus, les rendez-vous sont gratuits. Donc, on met le lien en dessous du vidéo. Pour vrai, vous ne perdez rien à aller les rencontrer. Ça vaut la peine.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bien, merci beaucoup pour l'invitation.
Donc, nous, on aime ça recommencer un peu au départ. Donc, est-ce que vous avez toujours su que la médecine, ça vous intéressait?
Bien, honnêtement, pas de manière directe, mais en y repensant un petit peu de la trajectoire que j'ai prise, c'est sûr que j'ai toujours aimé les sciences de la santé, la bio. J'ai considéré la médecine dentaire pour une grosse partie. Là.
Ouais.
Je pense jamais beaucoup à l'aspect manuel, technique, etc. Mais après mon bac, j'ai fait en fait une maîtrise en pensant que je m'orienterais plus vers une carrière académique recherche.
Okay.
Et c'est vraiment pendant ma maîtrise que mon patron, qui était un petit peu un mentor, m'avait dit « Écoute, va en médecine, ça va être beaucoup plus facile même pour faire de la recherche, etc.
Ah, » okay.
Donc, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée là. Mais c'est un peu organique comme parcours, je te dirais.
Une maîtrise
même,
en quoi vous faisiez?
En neuro-immuno. J'ai fait ma maîtrise, c'est ça, en neuro-immuno au neuro, ici à McGill.
Mmh. OK. Mais c'était quand même déjà dans le domaine de la santé aussi.
Oui, c'est ça. Puis mon patron était MD aussi. Donc, c'est un MD qui faisait plutôt de la recherche. Donc, c'est ça. C'est lui qui m'avait poussé un petit peu plus là. Puis,
ouais, quand vous êtes rentrée en médecine, est-ce que vous étiez plus intéressée vers la neuro ou l'immuno, vu que vous avez fait notre maîtrise là-dedans? Ou dès le début, vous saviez que vous étiez en ophtalmo?
Non, vraiment pas. Immuno, oui, ça m'intéressait. Et c'est pour ça, finalement, que je me suis retrouvée à faire une sous-spécialité en ophtalmo en uvéite. J'ai toujours aimé l'aspect plus technique, manuel. Donc, c'est sûr, les spécialités chirurgicales, ça m'intéressait un peu. Mais après que tu commences, quand tu commences à faire les stages, c'est là que tu commences un petit peu le processus d'élimination. J'ai réalisé que j'aimais pas non plus être dans la salle d'op chaque jour de la semaine. J'aimais pas tant l'étage. Je préfère vraiment les cliniques externes. Donc, c'est sûr, chirurgie générale, etc., c'est un petit peu plus éliminé.
C'était l'ambiance générale que vous aimiez?
Oui, c'est ça. Un petit peu d'être toujours à l'étage, faire les tournées. C'était pas trop... ça m'intéressait pas autant, je trouvais. Mais les cliniques à l'externe, j'aimais bien ça. La structure de la clinique, avoir ses patients qu'on suit, etc. J'aimais beaucoup ça. Donc là, déjà là, je m'oriente plus vers comme les spécialités comme ophtalmo, ORL, etc. Puis oui, petit à petit, c'est ça. On parlait justement tantôt de TCP puis faire la semaine en ophtalmo. Puis c'est un petit peu là le coup de cœur qui m'est arrivé plus, là, mais ouais.
Savez-vous si les autres universités ils ont une semaine comme obligatoire comme nous aussi pour faire en ophtalmo?
Je sais que l'Université de Montréal, parce que j'ai souvent des externes au CHUM, ont au moins une semaine aussi en ophtalmo. Mais honnêtement, je trouve une semaine, c'est court.
Ouais.
Surtout en ophtalmo, s'orienter avec la lampe à fente, l'examen physique est très différent, etc. Je trouve que c'est vraiment court. C'est vraiment juste un petit aperçu au maximum. Mais je pense que ça permet au moins des gens de savoir que, ça existe, de quoi ça a l'air une semaine typique, puis au moins voir s'il y a un intérêt peut-être.
C'est une petite piqûre.
Exactement, puis poursuivre au moins des stages après ça en MED3 si ça les intéresse.
Mm. Fait que là, à partir de MED2, vous saviez que vous vouliez aller en ophtalmo. Fait que si vous avez toutes mis vos cartes de votre côté pour pouvoir rentrer, puis c'est un domaine quand même très compétitif, je crois.
Ouais, c'est quand même, ça devait être de plus en plus contingenté aussi, je trouve, mais c'est sûr qu'en ophtalmo, c'est dur de rentrer si tu découvres ça comme patient en MED4, là, c'est un petit peu tard. Mais c'est ça, là, après ça, je me suis intégrée dans un petit peu en recherche. T'apprends à connaître les gens du département aussi. J'ai pu faire des stages. Donc, c'est un petit peu comme ça que je me suis impliquée un petit peu plus. Mais ouais, définitivement, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, je les encouragerais à vraiment parler aux résidents. Surtout, les résidents sont souvent comme la porte d'entrée un petit peu. Ils ont souvent des projets de recherche, ils cherchent des étudiants en médecine pour s'impliquer. Donc, c'est toujours une bonne idée de contacter les résidents, voir s'ils auraient une possibilité de même passer du temps avec eux en clinique ou en garde. Donc, c'est ça.
Ouais. Est-ce que vous aviez un plan B? Si vous,
Oui. Honnêtement, je considérais bizarrement la MED interne vraiment assez fortement. Je me voyais bien comme une spécialité comme gastro ou même rhumato. Il y a quand même la possibilité de faire quelques procédures. Puis surtout avec mon background en immuno, ça fitait bien. Donc ouais, absolument. J'étais pas ophtalmo, rien. J'avais appliqué dans les deux spécialités, honnêtement.
Ah ouais, ok. Ouais. Okay. Puis c'était comment ça, le processus de faire des entrevues pour deux spécialités?
C'est dur parce que c'est sûr qu'en MED interne, il faut justifier un petit peu pourquoi on a comme trois stages en ophtalmo.
Ouais.
C'est dur à les convaincre un petit peu, mais étant donné que c'était quand même un intérêt pour moi en réalité, puis j'avais fait des stages en rhumato et en gastro, puis encore une fois, mon background immuno, ça fitait bien, donc c'est un peu comme ça que j'avais... à approcher l'entrevue. Mais c'est sûr que c'est un peu dur, des fois, quand tu es entre deux spécialités. Mais les gens comprennent. Ouais. Je dirais que les gens, ils ont passé par ça aussi, d'avoir plus qu'un intérêt. Puis, donc, ils comprennent en général.
Parce que ça paraît bien d'avoir juste un plan A, mais tu sais, dans la réalité, c'est stressant, là, surtout quand c'est quelque chose de compétitif.
C'est ça. C'est sûr qu'il y a toujours d'autres... avenue, là, si on rentre pas la première année, il y a souvent des étudiants qui prennent une année comme sabbatique, font un fellowship en recherche ou ils font d'autres choses en attendant. On connaît des étudiants qui appliquent la deuxième tournée pour MedFam ou d'autres spécialités qui sont peut-être ont des places après le premier round de CARMS. Donc, il y a plusieurs avenues après ça. Moi, je dis à tout le monde, s'il y a une autre spécialité que tu considérerais, pense-y aussi, puis applique de la première tournée. Parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, je considérerais bien MedFam », mais ils n'appliquent pas. Et après ça, quand ils ne rentrent pas la première fois, il ne reste plus de place, même en deuxième tour. Puis là, il y a un petit peu cette sensation de regret.
Ou il y a juste des places comme plus loin.
Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que si t'es full juste une spécialité, ben vas-y, donne-toi au max. Là, puis...
Ça risque de... fonctionner, fingers
crossed. Oui, il y a plein de gens qui rentrent la deuxième année après avoir fait une année de recherche, etc. Donc, chacun a un parcours un peu particulier. Puis, des fois, ça t'aide aussi plus tard. Ça t'orientera plus tard dans ta carrière académique en tant que chercheur clinicien, par exemple. Donc, ça ne peut qu'aider.
C'était comment la résidence?
Ben écoute, la résidence, il y a toujours un peu cette conception en ophtalmo que c'est une spécialité lifestyle, une belle qualité de vie. Je vous dirais, oui, c'est vrai, quand t'es patron, t'as beaucoup plus de contrôle sur ta journée, comment ton horaire. C'est quand même une résidence qui est tough. R2, c'est l'année la plus lourde, chargée. T'es vraiment... tu t'occupes de toutes les urgences dans les cliniques, à l'étage, à l'urgence aussi. Puis on reçoit souvent des appels même du nord du Québec. Donc, c'est vraiment chargé. C'est des longues journées. T'es souvent entre deux sites. Donc, aller d'un site à l'autre, c'est pas évident. Après ça, et tu fais beaucoup de garde. C'est quand même l'année la plus chargée en termes de garde. La troisième année, R3, c'est une année un peu où tu fais plus des spécialités, des cliniques de spécialité. Donc, c'est un peu moins lourd. Ça te permet un peu de découvrir si tu veux faire ophtalmo général versus une spécialité. Puis R4, c'est vraiment une autre année chirurgie, cataracte. Donc, on passe l'année vraiment au bloc. Ça vient avec ses propres stress, là. C'est sûr que la chirurgie, c'est un autre stress en lui-même.
Surtout dans l'œil, j'ai l'impression.
Oui, c'est ça.
C'est minutieux.
Oui, puis c'est un volume. C'est la plupart des des spécialités chirurgicales font comme 2, 3, 4 cas par journée. Nous, dans une salle opératoire, on peut rouler comme 14 cataractes par jour. Oh, donc, wow. C'est quand même un gros volume. Tu es en train de courir toute la journée. Donc, c'est vraiment personnellement mon année préférée. Mm. Puis après ça, R5, c'est comme une année hybride un petit peu. On fait des spécialités, encore des spécialités, mais en même temps, t'appliques en fellowship, t'es en train d'étudier pour ton collège royal. Donc, c'est un peu une année différente, je te dirais.
Puis dans ce parcours-là, c'est à quel moment que vous avez décidé de vous spécialiser après?
Assez tôt, je dirais, ouais. Je savais quand même que je voulais travailler dans un domaine académique, universitaire. Puis maintenant, les règles en général dans les domaines universitaires, c'est qu'il faut faire un fellowship ou une spécialité. C'est pas vraiment... c'est pas geared vers l'ophtalmo général, je vous dirais. Donc, assez tôt, je savais que je m'orientais vers ça. Avec mon background lumineux, ça m'a comme mené dans la route du vite assez rapidement. Puis j'ai eu de la chance de trouver des mentors vraiment super dans ma résidence qui m'ont beaucoup encouragée. Donc,
Vous avez fait ça où, le fellowship?
À Chicago.
Okay.
Oui, à Northwestern, à Chicago.
Pendant un an?
Oui, c'était un fellowship d'un an. Ça a tombé malheureusement pendant la pandémie. Donc, c'est sûr, l'expérience était un petit peu différente. Mais non, c'est super. La ville est super. Le programme était vraiment bien. Une belle expérience.
Puis là, quand vous êtes revenu, vous trouvez un poste à McGill. Est-ce que c'était déjà un peu seté quand vous êtes parti faire le fellowship?
Le processus est un petit peu bizarre et... nébuleux. En général, il y a les discussions de poste et tout, ils commencent bien avant le fellowship, tu sais, pendant la résidence, dépendamment de tes intérêts, les disponibilités, etc. En général, ces conversations-là commencent en mi-résidence et j'ai signé à la fin de mon fellowship en revenant.
Okay.
Mais j'avais déjà une bonne idée que je revenais à McGill déjà là.
Y a-t-il une grande demande d'ophtalmologiste au Québec ou...
Je voudrais oui et non, dans le sens qu'il y a toujours, c'est les PEM, les permis d'exercice médicaux qui sont limitants. Donc, ça dépend un petit peu de la disponibilité. Il y a toujours, c'est sûr, en domaine plus rural, beaucoup plus de disponibilité. Donc, si quelqu'un est intéressé à sortir de Montréal, les chances sont beaucoup mieux d'avoir des postes. Donc, oui, les postes à Montréal, en tant que tel, sont un peu plus rares, mais je pense à les opportunités, ils arrivent.
Puis là, une semaine, mettons, dans votre emploi, ça ressemble à quoi? Fait que vous avez dit que parfois en chirurgie, vous pouvez passer 14 patients par jour, mais je suppose que vous ne faites pas la salle d'opération à tous les jours comme ça.
Non, 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 non. Puis en fait, ce qui est particulier avec l'ophtalmo, c'est que le spectre de pratique peut vraiment varier. Il y a des gens qui sont en salle d'op deux fois par semaine, comme des spécialités comme la rétine, par exemple. Ils sont vraiment très chirurgicales, en salle d'op deux fois par semaine, des fois. Puis, tu as des ophtalmos qui n'opèrent pas du tout. Ils sont vraiment des ophtalmos médicaux. Ils font que de la clinique externe.
Ah ouais.
Oh ouais, c'est pas rare non plus. Donc, je te dirais, tu peux être n'importe où sur ce spectre-là. Moi, personnellement, j'opère à chaque semaine ou deux maximum. Ma spécialité, je fais que des cataractes, mais en même temps, je fais des cataractes uvéitiques, donc c'est des cataractes un petit peu plus complexes. J'ai des patients avec des maladies inflammatoires, donc c'est des chirurgies un petit peu plus particulières. Je passe le restant de mes journées en clinique externe, en général. Puis les cliniques externes, ça dépend où je suis. On se disait, je suis souvent soit à St. Mary's, soit au CHUM, où je fais la plupart de mes cas, de ma clinique du VIT. Puis sinon, l'ophtalmo général à St. Mary's. Puis là, dans les cliniques, c'est soit des patients juste avec des problèmes généraux, ou on a des procédures, des lasers à faire aussi, des petites choses comme ça, des petites procédures de clinique.
Puis, autant en clinique qu'à la salle d'opération, j'ai l'impression que le volume est comme vraiment élevé en ophtalmo. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez, ça, ou c'est quelque chose qui peut devenir lourd en allant?
Oui, puis personnellement, moi, j'ai un petit peu une pratique particulière où ma clinique d'ophtalmo générale, oui, c'est un gros volume, c'est à la St. Mary's, mais par contre, celle au CHUM des patients UVIT est beaucoup plus restreinte parce que les patients UVIT sont beaucoup plus compliqués. En général, ils ont des problèmes, maladies systémiques associées. Ils sont soit sur des immunosuppressifs, donc on doit gérer ces médicaments-là. Donc, c'est des patients qui prennent beaucoup de temps. Donc, mes cliniques sont beaucoup plus petites, avec un volume plus petit au CHUM. Donc, j'ai un petit peu cette balance-là. Mais oui, définitivement, c'est une spécialité avec volume. Il
faut être social puis aimer se voir les gens.
Oui, puis d'une salle à l'autre, ça bouge. Donc, c'est ça.
Est-ce qu'il y a des caractéristiques que vous diriez qu'un étudiant doit absolument avoir pour pouvoir rentrer en ophtalmo ou même être juste un bon ophtalmologue?
Oh, bonne question. Des bonnes caractéristiques à avoir, c'est sûr, une certaine dextérité manuelle, je dirais. On travaille dans l'œil avec quelques microns, là. Donc une certaine dextérité manuelle, je pense, est pas mal requise. Quoi d'autre?
Est-ce que ça s'apprend ou d'habitude, les gens ils l'ont plus ciné?
C'est un mélange des deux. Définitivement, il y a de l'apprentissage, peu importe que tu sois né chirurgien, chirurgienne ou pas. Mais une certaine composante innée aussi, je pense. Certaines personnes sont juste pas nées pour être chirurgien, puis vice-versa. Puis sinon, pouvoir, je pense, intégrer, c'est une spécialité très... très lié à l'examen physique, dans le sens que oui, l'histoire est importante, mais c'est vraiment l'examen physique qui détermine souvent le diagnostic. Donc, de pouvoir intégrer les trouvailles à l'examen physique avec le diagnostic, ce genre de faire des puzzles un petit peu, c'est vraiment important aussi.
Puis, c'est comment tout le côté gadget un peu? Genre, moi, j'ai juste une petite demi-journée hier, puis c'est toute la grosse lampe, toutes les choses pour regarder.
Oh, ouais.
Est-ce que ça doit évoluer quand même rapidement, ces technologies-là? Ah,
tellement, tellement. Que ce soit en chirurgie, en clinique, c'est incroyable, les innovations. Je veux dire, en chirurgie, même avant que je parte en fellowship versus maintenant que je rentre en tant que patron, il y a tellement de nouvelles lentilles qui sont sur le marché, de nouvelles offrances pour les patients. Même chose en clinique, tu as vu tous les gadgets un petit peu pour l'imagerie ophtalmique aussi. Écoute, on est capable maintenant de vraiment prendre des images de la rétine au micron près. Donc, c'est assez incroyable puis ça évolue tellement.
Comment vous gardez le rythme avec ça? Est-ce que c'est dans la clinique qui vous le dit, on a nouveau gadget ou c'est vous qui devez aller faire des recherches pour dire « moi, je veux ça ».
Mais c'est un peu des deux. Moi, je trouve que c'est super excitant parce que ça te force un petit peu de rester à jour, de rester comme « relevant ». Il faut aller au congrès, il faut vraiment rester à jour là-dessus, apprendre c'est quoi les nouvelles lentilles, discuter avec les représentants. Sinon, on reste un petit peu à l'écart des avances. Puis ça avance tellement rapidement que si tu veux offrir le meilleur aux patients, il faut vraiment se garder à jour là-dessus. Ouais, je pense, être impliqué dans les congrès, être impliqué dans les... Il y a toujours plein de talks, les soirées, les week-ends. Donc, être impliqué là-dedans et de se garder à jour, c'est vraiment super important. Puis, ouais, c'est ça. Oh, ouais.
Il y a quand même une grosse composante privée aussi à l'ophtalmo, si...
Il y en a, c'est sûr. C'est un petit peu compliqué dans le sens que, vis-à-vis de la RAMQ, il faut... soit tu travailles au privé ou tu travailles sur RAMQ. Donc, il y a des patrons qui sont travaillent full au privé et puis d'autres qui sont RAMQ. Il y a la possibilité aussi de se désabonner de la RAMQ et travailler au privé, mais il y a comme des règles particulières là-dessus. Puis, il y a d'autres petites particularités dans le sens que même des services publics, par exemple, la chirurgie de cataracte, le patient, clairement, il ne paye pas pour la chirurgie de cataracte au public, mais dépendamment de la lentille que le patient choisit, des fois, il y a des frais à débourser pour cette lentille-là.
Okay.
Donc, c'est un petit peu particulier dans ce sens-là. Donc, il y a des lentilles qui sont couvertes par le gouvernement et d'autres qui ne le sont pas. Donc, il y a des frais associés à ça.
Mais quand même, la majorité des ophtalmologistes ont plus une pratique à l'hôpital, mettons, en clinique externe.
Je te dirais pas tant nécessairement à l'hôpital, mais oui, en clinique externe. Clinique. Il y a beaucoup de patients, d'ophtalmologistes qui ne travaillent pas nécessairement à l'hôpital en tant que tel. En fait, la plupart des ophtalmos, ils ne sont pas basés à l'hôpital en tant que tel. Même ceux qui travaillent dans le domaine de l'hôpital, ils ont en général des cliniques externes où ils travaillent au moins une journée ou deux par semaine.
Puis dans ces cliniques externes, il y a les salles de chirurgie. Vous revenez à l'hôpital faire les chirurgies?
En général, pour les chirurgies, c'est dans soit l'hôpital, soit les centres opératoires. Okay. Depuis COVID, il y a eu un petit changement. Donc avant, toutes les chirurgies de la cataracte se faisaient à l'hôpital, mais avec toutes les coupures au système, etc., pendant la pandémie, beaucoup des chirurgies de cataracte ont été bougées dans les centres opératoires hors de l'hôpital. Donc, c'est ça. Donc, c'est encore un système public dans le sens que c'est funded par l'hôpital. Il n'y a pas de frais aux patients, mais c'est pas fait dans un hôpital.
Vu qu'il y en a tellement qui sont faites, j'imagine que c'était justement pour ne pas prendre une salle un bloc opératoire, mettons, juste pour les cataractes.
Exactement. Puis c'est un petit peu un shift qui a commencé déjà aux États-Unis et ailleurs où les cataractes ont été déplacées hors de l'hôpital. Donc,
Parce que souvent, les patients, ils n'ont pas nécessairement d'autres problèmes de santé. Puis s'ils évitent d'aller à l'hôpital, ça peut être
aider. Exactement. Puis ils n'ont pas nécessairement besoin d'anesthésie non plus générale ou de monitoring de ce côté-là. Donc, ce n'est pas autant nécessaire d'être en hôpital. On garde quand même quelques temps opératoires pour les cas d'urgence, pour les cas de trauma, par exemple, ou chez des patients particuliers où on aura besoin, pour quelconque raison, une anesthésie générale, par exemple. Donc, on a quand même un peu de temps opératoire pour ça. Mais sinon, la plupart du temps chirurgical, pour les cataractes en tout cas, sont hors de l'hôpital. L'exception reste pour les chirurgies de rétine. Ça demeure à l'hôpital. Beaucoup des chirurgies d'oculoplastie aussi, ça reste à l'hôpital, strabisme.
Donc, c'est sinon, ça. Y a-tu... J'ai un blanc, désolée.
Ça reviendra.
Oui, je me demandais en fait si il y avait une caractéristique qui vous a vraiment piqué de l'ophtalmo. Genre, c'est qu'est-ce qui a fait que c'était vraiment ça? Puis par exemple, on a parlé un peu, vous avez regardé aussi ORL, tout ça. Fait qu'est-ce qui vous a vraiment le plus attiré envers l'ophtalmologie?
Faut vraiment, je pense, c'est un avis que m'avait donné quelqu'un, je me rappelle même plus c'était qui m'a vraiment comme marqué. C'est peu importe la spécialité que tu choisis, il faut aimer le bread and butter de cette spécialité-là. C'est sûr qu'il y a, toutes les spécialités ont des diagnostics super exotiques, des chirurgies super intéressantes, mais la réalité, c'est que au jour le jour, tu vas voir ce qui est bénin ou très commun. Faut aimer cet aspect-là de la spécialité que tu choisis ou au moins pouvoir le tolérer parce que ça sera pas toujours excitant et unique et particulier. Et donc, pour moi, je pense, l'ophtalmo, c'est ça, j'aime tout de même les trucs de base d'ophtalmo général, j'aimais beaucoup ça. ORL, j'ai fait une tournée de ce qu'on appelle les trick rounds là, à l'hôpital, puis c'était pas pour moi, donc ça, c'était rapidement mis de côté. Ben oui, c'est ça. Il faut vraiment juste aimer le quotidien aussi de la spécialité, je te dirais.
Fait que les chirurgies cataractes, il faut quand même aimer ça.
C'est ça. Si tu dis « Oh non, ça me dit rien, la chirurgie de cataracte » ou « Oh non, les yeux secs, c'est impossible que je gère ça », ben écoute,
c'est pas mal. Pour moi. Ouais. Puis il y a niveau qui est balance entre la vie personnelle puis le travail. Vous mentionnez tantôt que les gens pensent que c'est comme une des tops, mais est-ce que c'est vrai une fois qu'on est patron?
Hein? C'est ça. Quand t'es patron, t'as beaucoup plus de contrôle sur ton horaire, dans le sens que tu choisis un petit peu combien tu veux te travailler. En général, faut travailler, si t'as un PEM dans un centre universitaire, faut travailler au moins une journée par semaine dans l'hôpital. Puis après ça, comment tu bâtis ta pratique hors de l'hôpital, c'est un petit peu à toi de décider. Donc oui, définitivement beaucoup plus de flexibilité. Mais ça reste qu'il y a des gardes à faire. C'est des gardes à la maison, c'est sûr, mais des gardes à faire, surtout si tu travailles à l'hôpital. La résidence, je pense qu'il y a quand même un shift en général en médecine vers intégrer plus la balance vie personnelle, vie travail, quand même je vois même à McGill avec les étudiants en médecine, il y a plus de règles en termes de combien d'heures tu peux travailler, etc. Donc, je pense, en général, une culture qui change un petit peu pour aider les gens à avoir une meilleure balance plus tôt dans la vie. Parce qu'il faut quand même, ça n'arrête jamais. Honnêtement, moi, quand je suis rentrée en médecine, je pensais que c'était tout. Le gros travail était fait, c'est bon.
Ouais.
Mais tu réalises que ça n'arrête jamais. Honnêtement, au début, c'est rentrer en médecine. Après ça, c'est trouver une spot en résidence. Après ça, c'est le travail, fellowship. Et même en tant que patron, c'est comme les challenges d'apprendre comment enseigner les résidents, de comment gérer ma pratique. Donc, il faut vraiment trouver une balance assez tôt parce que si tu attends à ce que ça se calme, ça se calme jamais.
Toujours attendre à...
Mais c'est ça.
Après la prochaine étape.
Oui, il y a toujours quelque chose. Jamais, sinon, même maintenant, il y a toujours des challenges, des défis. Donc, il faut trouver cette balance assez tôt.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé savoir avant de rentrer en résidence en ophtalmo, avant d'être patron, que c'est quelque chose que vous avez découvert pendant, que vous dites « Ah, ça, c'était quelque chose que j'aurais aimé savoir en tant qu'étudiant? »
Pour moi, la balance vie personnelle, travail, j'ai trouvé ça un petit peu plus tard. J'aurais bien aimé l'intégrer plus tôt. J'ai toujours été un petit peu la personnalité à se donner à fond côté professionnel, puis ça m'a bien servi, mais je pense aussi avoir trouvé une meilleure balance plus tôt, ça aurait été bien, donc je l'encourage à tout le monde. Quoi d'autre?
Est-ce que vous pensez que c'est possible en tant qu'étudiant d'avoir cette balance-là puis de rentrer dans des spécialités vraiment contingentées?
Je pense que oui, si tu es bon ou bonne avec comment tu gères ton temps. je pense que c'est une des atouts, un des atouts que qui est vraiment important, c'est de savoir gérer son temps et d'être, de maximiser son temps. C'est de travailler de manière intelligente, c'est pas de travailler juste pour travailler. Et non, tu donnes du temps à faire ce que tu as à faire, la recherche, etc. Mais de ne pas se donner à fond surtout non plus, mm-hmm. je pense.
Faire des choix puis aller dans des
Oui, c'est ça. Puis, ouais. Mais je pense que c'est difficilement possible, mais c'est un effort aussi à faire des deux côtés. Puis je pense que trouver un mentor, c'est bon. Toujours se trouver un mentor, dans, que ce soit en médecine ou en résidence, d'avoir cette personne ressource-là pour demander des questions, pour leur, demander leur avis, etc. C'est toujours bon d'avoir une opinion un petit peu externe à t'aider avec pendant le trajet.
Ça me fait penser. Je pense que l'ophtalmo, c'est encore un milieu très masculin. Là. J'ai l'impression, surtout dans les... Sûrement que, tu sais, vos patrons, comme vous étiez résidents, ça devait être majoritairement des hommes.
Oui.
C'était comment de naviguer ça?
Bien, c'est ça. C'est, je pense, oui, au début, là, c'est sûr qu'ophtalmo, historiquement et traditionnellement, c'est un peu dominé par les hommes. Mais définitivement, encore une fois, il y a un shift qui commence à avoir. Je regarde même dans notre département, McGill, des 5 derniers recrues, au moins 3 sont des femmes. Donc, définitivement, de plus en plus, il y a ce shift-là vers la présence, avoir une présence féminine dans le département. Les résidents aussi, quand on regarde nos résidents, de plus en plus, ils ont moins, je te dirais, 40 à 50 % par année, dépendamment de l'année. Donc, c'est sûr. J'ai eu de la chance, j'ai toujours eu comme des bons mentors féminins dans le département, donc ça m'a permis de toujours trouver ma place. Mm-hmm. Mais c'est pour ça que j'encourage toujours les gens à se trouver des personnes ressources, que ce soit en médecine ou quand tu rentres en résidence. Ouais. Ouais, ça aide vraiment.
Mm. Puis, bon, je voulais poser cette question-là. Sentez-vous à l'aise de ne pas répondre, parce que je sais que le ce qui est comme argent, des fois, c'est un peu tabou. Là. Mais je trouvais qu'on ne pouvait pas ne pas passer à côté en ophtalmo, vu que c'est comme c'est un salaire qui est comme vraiment élevé, là, qui est comme le double, je pense, que de la majorité des spécialités. Est-ce que vous pensez que ça fait que certaines personnes font le choix de l'ophtalmo pour cette raison-là?
Bonne question. Ils ne devraient pas.
Ouais.
Ben, dans le sens que c'est quand même un long parcours, puis un long trajet, puis ce n'en est pas un qui est facile non plus. Je pense, c'est drôle, la discussion financière, c'est souvent tabou.
Ouais.
Ça devrait pas l'être tant que ça, honnêtement. Puis, même quand t'es en résidence, des fois, t'as l'impression que tu sais pas vraiment comment ça marche, les finances, en tant que patron. Donc, encore une fois, faut demander, puis faut avoir ces conversations-là un petit peu ouvertes et honnêtes et transparentes, parce que il n'y a pas de raison de pas les avoir, non? Puis, en termes de choisir l'ophtalmo pour l'argent, honnêtement, je compare à mes amis qui sont en business ou dans le monde technologique, etc., des amis qui travaillent à Google, etc. Les salaires sont souvent pas loin, là.
Ouais, donc, c'est vrai, il n'y a pas juste ça.
Il ne faut pas choisir la médecine pour l'argent parce qu'il y a vraiment beaucoup d'années d'études pour en arriver là.
Ouais, c'est vrai. Des années où on ne fait pas d'argent.
C'est ça, c'est ça. Et puis l'autre chose, en finalement, c'est que vraiment, il y a une grosse variété pour une grosse marge aussi pour les salaires. Il y a des gens qui travaillent 5 jours par semaine, des fois même 6. C'est sûr que leur salaire le reflète. Mais aussi, il y a des gens qui travaillent à temps partiel, 2 jours et demi.
Mm.
Donc, c'est dur vraiment de parler salaire. C'est sûr que c'est plus haut que de salaire moyen, là, mais ça dépend aussi de combien tu travailles.
Oui, c'est toujours ça en médecine. Ouais. Plus qu'on travaille, plus qu'on fait d'argent. C'est clair.
Sinon, y a-t-il une chose dans votre pratique que vous aimez un peu moins? Quelque chose dans l'ophtalmo, vous êtes comme, ça, c'était un petit point négatif de cette spécialité-là.
Mais une des choses que j'aime moins, mais c'est pas tant unique à l'ophtalmo. Il y a plein d'autres spécialités qui ont la même chose, mais une des choses qu'on réalise pas en tant que résident, c'est le montant de paperasse qu'il y a à faire. Le travail administratif qui accompagne être patron. C'est sûr, j'ai une spécialité où il y a peut-être un petit peu plus de paperasse versus les autres spécialités d'ophtalmo parce qu'on a des patients immunosupprimés, etc. Donc, il y a des prises de sang à faire, à suivre, d'autres consultants, d'autres médecins avec qui on doit un petit peu coordonner les soins des patients. Donc, il y a un petit peu plus de travail administratif à faire. Mais ouais, c'est probablement l'aspect que je préfère le moins. Et donc, il faut quand même dédier quelques heures par semaine à ça. Mais je dirais aussi, et c'est là où avoir des personnes ressources est important, il faut parler aux autres collègues, voir comment est-ce qu'eux, ils gèrent ça, parce que tout le monde a le même problème. Puis, je trouve, en parlant avec plusieurs personnes, on réalise qu'il y a quand même des tricks et des manières d'optimiser ton temps pour le faire de manière intelligente, pour que tu ne passes pas des journées non plus à faire de la paperasse, parce que c'est pas utile.
Ouais, ou au contraire, tu la ramènes chez toi le soir, ou des choses comme ça.
C'est ça. Donc, il faut vraiment trouver des manières de travailler intelligemment là, pour minimiser ce travail administratif-là.
Ça, vous avez développé ça avec les années, là, genre?
Ben, année, je viens de commencer, ça fait juste un an.
Ah, OK, pour vrai, bon. Les
donc,
années.
C'est un travail en cours, mais définitivement, ça va déjà beaucoup mieux que ce l'était au début, parce qu'au début, je trouvais que c'était assez encombrant. Mais là, j'ai trouvé des manières d'essayer de gérer ça pour que ça soit plus gérable.
Oui.
Oh, ouais.
Puis, y a-t-il des défis comme qui sont un peu uniques à l'ophtalmo, tu sais, que vous diriez... Je sais pas, est-ce que c'est... Vous disiez tantôt qu'il y a encore beaucoup de manque dans les régions éloignées. Ça fait-tu que ces régions-là sont moins desservies puis qu'ils se ramassent tout en...
Mais c'est sûr, parce que des fois, tu te retrouves avec des patients qui ont été traités, par exemple, surtout les spécialités, sous-spécialités en ophtalmo, par exemple, l'uvéite. Des fois, s'il n'y a pas d'uvéitologue en périphérie. Ouais. Donc, c'est souvent des patients qui sont gérés par un ophtalmo général qui font de leur mieux, mais qui, ultimement, c'est peut-être pas le soin idéal pour ce patient-là. Donc, ils se retrouvent un peu en retard dans les cliniques à Montréal. Donc, toujours le besoin de sous-spécialité en région éloignée, toujours là.
Oui, puis c'est sûrement pas juste le cas pour l'ophtalmo.
Non. C'est vraiment, je pense, un défi généralisé en médecine. Mm. Oui, définitivement.
Puis tantôt, vous avez parlé de garde, donc vous êtes de garde de temps en temps.
Oui.
Est-ce qu'en ophtalmo, les gardes sont vraiment occupés? Donc, si vous faites beaucoup appeler, est-ce que vous devez rentrer souvent ou c'est des gardes qui sont plus un peu relaxes?
C'est une question qui dépend un petit peu du centre. Parce que c'est sûr que si tu travailles dans un centre à soins tertiaires comme le CUSUM ou le CHUM, le volume est beaucoup plus élevé. Mais d'un autre côté, tu travailles avec des résidents. Donc, c'est souvent les résidents qui prennent les appels. Puis toi, tu révises avec les patients. Donc, oui, définitivement, tu dois rentrer pour les cas complexes, les cas chirurgicaux. Mais c'est les résidents qui prennent la plupart des appels, etc. Alors que, par exemple, moi, à St. Mary's, je suis first call. Donc, je n'ai pas de résident avec moi. Mais dans un plus petit hôpital, les volumes sont beaucoup moins élevés. Les urgentologues aussi sont beaucoup plus habitués à gérer des cas simples d'ophtalmo, par exemple. Donc, c'est souvent eux qui gèrent des cas simples, puis ils réfèrent en ophtalmo seulement si c'est un cas plus compliqué ou qui a besoin d'un suivi, par exemple, en externe. Donc, définitivement pas une spécialité où les gardes sont trop encombrantes. Mais encore une fois, ça dépend un petit peu du centre où tu travailles et de l'hôpital. Oui, ça change.
Puis vous êtes des gardes combien de...
Ça dépend. Encore une fois, ça dépend un petit peu de l'hôpital. Ça varie vraiment. Il y a des hôpitaux où tu es un dans trois, un dans quatre, puis d'autres où tu fais 2 semaines de garde, c'est tout l'année. Donc, ça dépend vraiment de l'hôpital.
Le nombre d'employés, sûrement.
C'est ça. Ouais. C'est le nombre de membres dans l'hôpital, puis la population qui est desservie. Mais c'est sûr, c'est des gardes à la maison. Là. On n'est pas à l'hôpital, donc ils nous appellent la maison.
Moi, je vais retourner un petit peu en arrière, mais ça m'intrigue. Vous êtes allé faire le fellowship à Chicago. C'est vraiment travailler dans le système de santé américain pendant un temps. C'est quand même très différent.
Très différent. Je pense que le système est différent. Les attentes des patients sont différentes aussi. J'ai travaillé à Northwestern, donc c'est quand même un gros hôpital à Chicago. Très bien équipé, vraiment, être extrêmement sophistiqué en termes d'imagerie, équipement, etc. Les patients là-bas, c'est un peu différent dans le sens que ils sont capables d'avoir des rendez-vous sans nécessairement une consultation externe dans cette clinique-là. Donc, des fois, tu te retrouves avec des patients, c'est comme le 4e, 5e, 6e avis. Donc, c'est une dynamique qui est un peu différente qu'au système canadien où les patients, souvent, pour avoir déjà un avis, c'est... Ça prend du temps, là, en arrivée, là.
Ouais.
Donc, les temps d'attente varient vraiment. Honnêtement, c'est ça.
Est-ce que vous avez déjà pensé rester là-bas ou c'était clair dans ma tête que vous reveniez ici?
Non, pas pour moi. Honnêtement, c'était assez clair que je revenais, que ce soit côté personnel, ma famille, etc., que que vraiment travailler dans le système canadien. C'était beaucoup plus vers ça que je m'orientais.
C'était-tu un gros défi s'adapter au système d'un autre pays?
Oui, puis surtout s'adapter à un nouveau système électronique pour les, mm-hmm. pour les dossiers. Ça, honnêtement, c'était tout un challenge. Savoir gérer les messages des patients. Là-bas, il y a vraiment beaucoup plus une attente vis-à-vis des patients pour les messages, répondre aux messages des patients directement mm-hmm. par courriel, etc. C'est juste très différent.
Vu qu'ils payent pour un service, ils ont plus d'attente.
Oui, c'est ça. Dépendamment d'où tu travailles, c'est sûr que les hôpitaux, ça change aussi aux États-Unis. Là. C'était au système public, au Veterans Hospital versus un hôpital privé. Mais mm-hmm. c'est très différent. Beaucoup plus de paperasse aussi, gérer les assurances des patients. Ça, c'était quelque chose qu'on n'est pas habitué à faire ça aussi au Canada. Ici, c'est public, c'est un système, c'est assez clair, le remboursement. Alors que là-bas, chaque patient a une assurance un peu différente et savoir gérer ça, surtout pour les médicaments un petit peu plus particuliers, c'était vraiment eye-opening, disons.
Mm-hmm. Puis là, c'est comme, on y va, je saute des étapes sur notre parcours, mais tu sais, quand on veut faire un fellowship, c'est comment que vous avez trouvé, mettons, où vous vouliez le faire, puis dans à qui s'adresser un peu?
C'est un peu différent du CARMS. C'est sûr qu'il y a un système de match comme le CARMS. Okay, ça s'appelle en général le SF Match. Pas tous les programmes sont dans le SF Match. Il y en a qui sont hors du système, mais beaucoup sont dans ce système de match-là. Dépendamment de la spécialité, de la sous-spécialité que tu veux poursuivre, c'est sûr qu'il y a des experts dans ce domaine-là.
Reconnus.
Oui, exactement. Puis il y a des programmes qui sont reconnus. Donc, tout comme le système de CARMS, tu appliques, tu fais des entrevues en général, puis il y a un rank. C'est un peu moins officiel dans le sens qu'il y a des programmes qui sont hors match, donc c'est vraiment juste au contact et une décision mutuelle, en fait. Mm-hmm. Puis en adossé, c'est vraiment un match officiel.
Donc, plus moyen de savoir, d'être un peu plus sûr, OK, je vais matcher avec cette personne-là.
Oui, c'est ça. Il y a moins de... C'est moins d'un wild card que, mm-hmm. que CARMS, je dirais. La plupart des gens ont une idée au moins de où ils vont s'orienter. Mm-hmm. Et ça dépend aussi de la spécialité. Il y a certaines spécialités qui sont beaucoup plus contingentées, telles que la rétine chirurgicale, par exemple, que, par exemple, l'UVIT, c'est pas une spécialité que beaucoup de gens veulent faire. Donc, c'est beaucoup moins contingenté.
Qui est comme la rétine ou des trucs comme
ça. Oui, rétine, c'est super populaire. Cornée, vite, un peu moins, malheureusement. Mais heureusement pour moi.
C'est utile quand il y a vous revenez, une expertise nouvelle.
Exactement.
Puis sinon, est-ce que vous avez un conseil à donner aux étudiants qui, comme nous, ils savent pas trop où est-ce qu'ils s'en vont, puis se demandent qu'est-ce qu'ils veulent faire?
Écoute, exposez-vous. Honnêtement, c'est dur, parce que surtout des spécialités comme l'ophtalmo, même l'urologie, des choses comme ça, il y a vraiment pas d'exposition tant que ça. Donc, reach out, envoyez des courriels aux résidents, allez passer du temps avec eux en clinique, en salle d'op, etc. Parce que ce que tu sais pas, tu le sais pas, you know what I mean? Mm-hmm. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Prenez le temps puis l'effort d'aller voir d'autres spécialités. Ils cherchent toujours des gens à s'impliquer dans les projets de recherche, etc. Donc, n'hésitez pas à contacter des gens aussi. Puis, trouvez des mentors, honnêtement. C'est vraiment mon avis.
Ce que
là.
Vous retiennent.
Oui, absolument. Ça m'a tellement aidée dans mon parcours, dans ma vie. Puis c'est encore des gens que je considère des bons amis, etc., des bons collègues. Donc, c'est vraiment, je recommande ça.
Excellent. Parfait. Merci beaucoup.
Avec plaisir. Super. Merci encore de m'avoir reçu.
Puis aux auditeurs, n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook, Instagram, de vous abonner à notre chaîne YouTube, puis parlez-en à vos amis.
À la semaine prochaine.
All right.